Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, ça commence bien, entre 12h et 13h, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que je vais être en forme pour cette émission de ce 2 mars. Vous nous écoutez sur la bande FM, hein, pour ceux qui nous écoutent sur 94.9 dans l'Aisne, l'Oise, la Somme. Et graphite.net, bien sûr, sur Internet, en direct, en différé. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de cette émission, rediffusion les mardis matins à 10h. Bienvenue sur l'antenne de Graphite. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité scientifique. On va déjà commencer cette émission traditionnellement par l'éphéméride et savoir ce qu'il s'est passé un 2 mars. Pas grand-chose. Voilà, objectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'empêche que c'est un 2 mars en 1969 que l'avion supersonique franco-anglais, le fameux Concorde, effectue son premier vol d'essai depuis Toulouse. C'était donc le 2 mars 1969. Son premier vol commercial aura lieu 7 ans plus tard, quand même. C'est quand même, ça a quand même été décalé par la suite. Le 2 mars 2002, la sonde spatiale Mars Odyssey de la NASA a trouvé des traces de glace sur la planète rouge qui pourrait receler de grandes quantités d'eau. Cette découverte relance l'hypothèse scientifique selon laquelle des formes de vie auraient existé sur Mars. Conditionnel, bien sûr, sur les formes de vie qui auraient existé. Il n'empêche que depuis 2002, alors ça avait fait un véritable effet. Hein. Ça aurait fait un effet. Je sens que cette émission va être compliquée. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens pas en forme là pour cette émission. En 2002, si vous vous souvenez, quand il y a eu cette annonce de la NASA, c'était quand même une information de grande ampleur. Et depuis, on en sait un petit peu plus, bien sûr, sur la présence d'eau sur Mars, mais on n'a pas encore nécessairement eu confirmation de la présence d'une vie qui aurait pu avoir lieu sur Mars. Mais bon, on est quand même dans un faisceau d'indices qui font que cela aurait pu avoir lieu. On est encore dans le conditionnel, bien sûr. Il est né un 2 mars 1902, Edward Condon, ou Condon, je ne sais même pas comment on peut prononcer le nom de ce physicien nucléaire américain, pionnier de la mécanique quantique, on va peut-être dire Condon, je ne sais pas, il est américain. Edward Condon est donc né un 2 mars. Il a participé au développement du radar et au développement des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort en 1974. Décès un 2 mars 1886 de John Cooper Forrest, médecin britannique. Il est le premier à réaliser une gastrostomie en Grande-Bretagne. La gastrostomie, c'est une opération chirurgicale qui consiste à pratiquer une ouverture dans l'estomac, une ouverture reliée à un orifice pratiqué dans la peau au moyen d'une sonde ou d'un cathéter. C'est un petit peu son fait d'arme à John Cooper Forster, qui est donc décédé le 2 mars 1886 à Londres. Oh là, ça va être compliqué cette émission. Je suis désolé, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être faim, en fait. Bon appétit si vous êtes à table et que vous nous écoutez en train de déjeuner. Tant mieux, quelle chance vous avez. Tiens, vous mangez peut-être de la salade. Je suis fort en transition, je m'épate moi-même. Mais il y a de la salade, bien sûr, qui pousse sur Terre, mais aussi dans l'espace. On le sait, bien sûr, que manger de la salade et des légumes verts, c'est bon pour la santé. Quoi de plus normal, bien sûr, que de proposer aux astronautes de cultiver leur propre plan afin d'agrémenter leur repas d'un peu de verdure, bien évidemment. Une nouvelle étude révèle toutefois que cette idée ne serait peut-être pas si bonne que ça et que manger de la salade cultivée dans l'espace pourrait même s'avérer contre-productif du point de vue de la santé des astronautes. C'est un article qui est paru au mois de février et que l'on peut retrouver un petit peu partout, notamment sur le site de Futura Science, qui explique que faire pousser de la salade dans l'espace, c'est pas nécessairement une bonne idée. Il y a une équipe de scientifiques qui en effet fait pousser de la laitue dans des conditions imitant la pesanteur qui règne au sein de la Station Spatiale Internationale. Et alors comment ils ont fait ça? En faisant tourner les jeunes plants dans tous les sens. Et donc cette situation, ça perturbe totalement la plante, qui ne sait plus dans quel sens pousser. Et les chercheurs ont ensuite introduit des bactéries dans le milieu de vie de la plante Et là, surprise, les plantes se sont retrouvées plus sujettes à l'infection, notamment par les salmonelles. Et en regardant d'un petit peu plus près, il s'est avéré que les minuscules pores qui permettent à la plante de respirer sont plus ouverts en microgravité que dans un environnement de croissance normale. Habituellement, ces petits pores qui sont donc à la surface de la plante, ce qu'on appelle les stomates, eh bien, ça se ferme lorsque la plante subit une attaque bactérienne. Et lors de la simulation en microgravité, eh bien, c'est tout le contraire qui se produit, c'est-à-dire que les laitues ont ouvert leur stomate, ce qui permet aux bactéries d'entrer. Et c'est un vrai problème quand on sait que le milieu spatial il est très confiné et que cela est propice au développement de bactéries et de champignons. Et donc, des plantes de salade pourraient donc être facilement contaminées et rendre malade, bien sûr, les astronautes. C'est une affaire qui est prise très au sérieux parce que personne n'a envie de voir une future mission capotée en raison d'une pauvre feuille de salade. Et pour essayer de résoudre ce problème, c'est pas si simple. Stériliser les graines emportées dans l'espace pourrait aider à réduire les risques, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Les chercheurs tentent donc de trouver d'autres parades, notamment en sélectionnant différentes variétés de laitues dont le comportement pourrait être différent en microgravité. Les résultats donc de cette étude ont été publiés dans la revue Scientific Reports. Mais donc, voilà. Les astronautes, notamment de la Station Spatiale Internationale, sont privés de salade pour l'instant dans leur menu. C'est fort dommage pour eux, voilà, il faut quand même qu'on soit un petit peu sérieux. C'est étonnant quand même de voir les réactions des salades en microgravité. Et du coup, elles peuvent être plus facilement contaminables et donc contaminantes, bien sûr. On va développer un petit peu dans cette émission la revue de presse de l'actualité scientifique. Il faut dire qu'il y a quand même pas mal de choses encore qui sont annoncées dans les différents articles. Vous avez la possibilité d'avoir sur internet pas mal de sites très intéressants. J'évoque surtout souvent Futura dans cette émission parce que les articles sont vraiment accessibles, vulgarisés et abordent pas mal de sujets. Vous avez bien sûr aussi toutes les revues scientifiques, les revues de vulgarisation scientifique qui vous permettent d'être informé bien sûr des avancées de la recherche dans différents domaines et au niveau international. Alors bien sûr, c'est la communication des laboratoires qui est reproduite dans le cadre de ces articles. Donc on parle de ce qui est communiqué, on n'a pas nécessairement toutes les informations. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu l'état d'avancement de la recherche scientifique dans les différents domaines. Par exemple, et ce qui paraît encore un peu incroyable aujourd'hui, on a découvert un nouveau type de virus dans le microbiote humain. Récemment, il y a une étude scientifique qui a révélé l'existence d'une nouvelle catégorie qu'on appelle d'entités génétiques. Ce sont des obélisques dans l'écosystème microbien de l'homme. Cette découverte qui a été publiée dans la revue Science ouvre de nouvelles perspectives sur la biologie de ces virus et leur rôle potentiel dans le microbiote humain. Alors, on les appelle donc des obélisques. Ce sont de minuscules structures d'ARN, donc on est bien sûr un support d'identité génétique. Ces obélisques ont été découverts dans le tube digestif et dans la bouche humaine. Ces entités ressemblent aux viroïdes, donc une espèce de virus, mais ces obélisques se distinguent par leur absence d'enveloppe protectrice, pardon. Donc on n'est pas sur nécessairement des virus clairement constitués, on est plutôt sur des ARN, donc des supports génétiques qui se déplacent comme cela, mais ils ont donc une incapacité à coder des protéines et ça va s'approprier un petit peu les enzymes nécessaires qu'ils vont trouver chez leur hôte, donc notamment ici dans le corps humain, pour pouvoir se répliquer et reproduire cette information génétique. Et l'étude révèle que le Streptococcus sanguinis, c'est une bactérie qu'on trouve très communément dans la bouche, eh bien, c'est l'un des hôtes de ces obélisques. Et bien que d'autres hôtes restent encore à confirmer, eh bien, les chercheurs suspectent une présence significative parmi les bactéries. Et les obélisques, ces fameux obélisques, donc, vont « coloniser », entre guillemets, pas nécessairement le terme approprié, mais l'idée c'est qu'ils vont utiliser ces bactéries présentes dans la bouche pour pouvoir se reproduire. Et donc du coup, ils ont réussi à pouvoir coloniser, en tout cas être présents en grand nombre, à l'intérieur du microbiote humain. On les appelle des obélisques tout simplement parce que ils ont une structure un peu unique qui ressemble, alors pas nécessairement à un obélisque, mais plutôt à l'idée d'une tige en 3D qui a été identifiée dans de très nombreux cas. Donc on se dit finalement, on va l'appeler l'obélisque parce que ça ressemble voilà, comme un genre de bâton. L'analyse de tout ce qui a été fait au niveau de l'activité génique, donc au niveau des gènes qui sont présents sur l'ARN, a révélé la présence de ces obélisques dans près de la moitié des échantillons qu'on a prélevés dans la bouche. Donc on voit très bien que c'est quand même très présent. Même au niveau des échantillons de sel, ils sont également présents. Donc ça veut dire que ça colonise tout l'appareil digestif. Ça indique donc une influence notable sur le microbiote intestinal et le microbiote buccal, donc au niveau de la bouche. Certains obélisques semblent même contenir des instructions génétiques pour leur propre réplication, donc l'idée qu'ils puissent se reproduire entre guillemets. On parle de réplication parce que quelque part ils vont comme une photocopie se multiplier de cette façon-là. Une complexité qui est inattendue par rapport aux viroïdes, donc ces genres de virus plutôt traditionnels. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert très récemment. Pour l'instant, on n'a aucune information encore sur le rôle précis de ces fameux obélisques, mais du coup, voilà, ça peut être aussi une nouvelle piste d'investigation pour des recherches futures, parce que la présence n'est pas anodine dans notre corps. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils ont une présence plutôt bénéfique, plutôt néfaste ? Des études vont bien sûr être menées sur ces fameux obélisques. Mais voilà, si vous pouvez regarder sur certains sites, vous verrez une représentation en 3D de ces fameux obélisques, je vais y arriver, qui sont présents dans le corps humain. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est leur découverte récente au sein du corps humain. Allez, on écoute un peu de musique, ça va me permettre de me remettre de tout ça et d'être un petit peu plus performant. J'en suis désolé, on écoute Nels sur l'antenne de Graphite.
Thank you. le sourire fier aux lèvres, dans un couloir de neige entre roches et congères. Les sapins me protègent, le ciel est mon couvercle. Mes cahiers de poèmes, je les laisse, je te les laisse. Doux rêveur, décapiteur, super-héros vengeur, du destin farceur. Aujourd'hui me rejoigne, continue le combat. La terre s'ouvre à toi, la terre est à toi. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais on a le cœur pur et l'âme tout autant. Au café tapageur, au lustre éclatant, mort au cou et que vive le surfeur d'argent. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais on a le cœur pur et l'âme tout autant. Au café tapageur, au lustre éclatant, mort au cou et que vive le surfeur d'argent.
C'était La Lanterne avec Nels sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On parle d'un petit peu de tous les sujets, toutes les thématiques dans cette émission. Il y a une information qui nous vient des chercheurs de l'Université de New York. Je vais essayer de vous la décrire, même si objectivement c'est pas nécessairement facile à comprendre par le média radio, mais peut-être que on pourra revenir dans quelques temps sur cette annonce qui concerne le dessalement de l'eau de mer. On sait bien sûr que l'eau est abondante sur Terre, pourtant on considère à peu près, on estime qu'il y a jusqu'à deux tiers de la population mondiale qui souffre de ce qu'on appelle d'insécurité hydrique, c'est-à-dire la difficulté d'avoir accès à de l'eau potable. Une situation qui pourrait s'aggraver avec le changement climatique et la croissance démographique, bien évidemment. Et dans certaines régions du monde, le dessalement de l'eau est crucial pour l'approvisionnement en eau douce et potable. Il y a plusieurs technologies qui permettent de dessaler l'eau de mer. On a le dessalement par distillation, on a également le dessalement par osmose inverse, deux technologies qui sont utilisées, que je ne vais pas décrire ici, mais voilà, on sait qu'il y a des choses qui existent. Eh bien, des chercheurs de l'université donc de New York proposent aujourd'hui une optimisation d'une solution électrochimique de dessalement qu'on appelle à flux redox. Alors comment ça marche? On essaye au niveau des articles d'expliquer cela, mais c'est pas toujours simple. Les chercheurs, eux, l'expliquent en détail dans une revue qui s'appelle Cell Reports Physical Science. En résumé, grâce à l'injection de l'eau de mer en deux flux dans un réseau de canaux qu'on a séparés par des membranes spécifiques qu'on appelle des membranes échangeuses d'ions, ça va faciliter le déplacement des ions. Et donc, du coup, on a tout un système un peu particulier. On met de l'eau de mer dedans et on arrive à produire de l'eau douce qui est produite avec une efficacité augmentée de 20% et une demande en énergie un peu moindre. Donc, c'est-à-dire qu'on peut produire plus d'eau potable en utilisant moins d'énergie par rapport aux technologies qui sont connues jusqu'à maintenant. C'est tout l'intérêt de ce nouveau dispositif. Et on nous dit que ce nouveau dispositif est alimenté par des énergies renouvelables, par exemple de l'énergie solaire ou par l'énergie éolienne. Et nous dit-on, ce système peut aussi fonctionner en sens inverse parce que l'électricité a été stockée sous forme d'énergie chimique dans l'eau salée, concentrée et dans l'eau douce. Et donc toutes deux créées dans ce processus qui a été mis en place. Et si ces deux eaux, les eaux salées et les eaux douces, sont mélangées, cette énergie chimique peut être reconvertie en électricité renouvelable. Alors ça, c'est pas facile, je trouve, à bien comprendre le dispositif. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ce dispositif permet de passer de l'eau salée à de l'eau douce. Et deuxièmement, il y a un système inverse qui fait qu'avec ce même dispositif, quand on a de l'eau salée et de l'eau douce, vous avez la possibilité de produire l'électricité. C'est ça un petit peu l'idée très schématique de cette découverte. Les travaux, bien sûr, des physiciens de l'Université de New York, ça constitue une belle avancée, mais il y a évidemment de nombreuses recherches complémentaires qui devront être menées. C'est nécessaire pour affiner le processus, le rendre aussi un petit peu plus performant et rentable. Mais voilà, on est quelque part vers une révolution dans un dispositif de dessalement de l'eau de mer, parce que c'est bien sûr des, pour l'instant, des technologies lourdes et coûteuses face à une demande, bien sûr, de plus en plus croissante d'approvisionnement en eau douce et potable. Mais voilà, c'était une découverte assez intéressante et qui mérite d'être affinée. Et je pense qu'on aura très rapidement l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce dispositif. Comme on parle, j'étais en train de faire une chose, j'étais en train de voir l'article suivant, et j'ai essayé de trouver en fait une transition, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas la chercher, mais on va aller au niveau de l'aéronautique. France 2030 est un outil formidable, car le pays est quand même doté de beaucoup moins de moyens d'investissement que les États-Unis, par exemple. C'est ce qu'explique Jean-Christophe Lambert, qui est le cofondateur et le dirigeant de Ascendance Flight Technology. Sur le milliard d'euros engagés en faveur de l'aéronautique, 400 millions ont été prévus en effet pour les acteurs émergents, comme cette start-up donc, qui est à Toulouse, qui a été créée en 2008. L'ambition est notamment de produire d'ici 2030 un avion décarboné de petite taille qui ouvrirait par la suite la voie au moyen courrier à l'horizon 2035. Donc ce dispositif France 2030, ça permet justement d'avoir des investissements pour avancer la recherche dans ce domaine-là. Et donc, le responsable de cette start-up, Jean-Christophe Lambert, revient du Forum économique mondial où il a été convié il y a quelques semaines pour parler des moyens de rendre plus durable l'aviation. Je cite, « Quand nous avons créé Ascendance en 2018, nous expliquions pourquoi il fallait décarboner l'aviation. Maintenant, c'est quand et comment. » Et donc, on a gagné une question. Et clairement, l'aéronautique a pris conscience qu'il fallait désormais accélérer vers la voie, bien sûr, de la décarbonation. Dans une industrie qui est confrontée au temps long de la réglementation et de la mise en œuvre des mutations technologiques, eh bien, l'heure est désormais au grand choix technologique. Alors, sur ce sujet, cette start-up, donc basée à Toulouse, a opté pour ce qu'on appelle l'hybride électrique, compatible avec le carburant qu'on utilise et avec l'hydrogène pour s'adapter aux parti pris futurs de l'industrie sur son carburant. C'est un positionnement assez original dans un marché qui est quand même très concurrentiel, on le sait, porté essentiellement sur le tout électrique, mais qui n'est viable que pour des usages de courte distance, jusqu'à 100 km maximum. Et donc, du coup, on n'est pas nécessairement sur une échelle vraiment performante du point de vue de l'aviation. Et il faut plutôt viser une plus longue distance pour le transport de personnes, la logistique et le service médical. Donc, cette start-up Ascendance Flight Technology a développé un avion à décollage et atterrissage vertical qui s'appelle ATA. Il bénéficie d'une autonomie de 400 km, c'est quand même déjà pas trop mal, d'une vitesse de croisière supérieure à 200 km/h, avec des émissions sonores divisées par 4, donc c'est moins bruyant que ce qu'il existe jusqu'à maintenant, et des émissions de dioxyde de carbone réduites jusqu'à 80%. Donc là, effectivement, c'est quand même une avancée assez intéressante. Et donc le responsable explique que le choix de l'hybride électrique permet de diminuer la consommation d'énergie nécessaire, mais aussi de décarboner la source d'énergie en associant une batterie et de nouvelles énergies comme le carburant qu'on utilise et les nouveaux carburants qu'on va utiliser et l'hydrogène qui devront être produits à des volumes importants et à des coûts plus modérés. Alors le premier vol donc de cet avion ATA, il est prévu pour la fin de cette année. Donc on aura, je pense, dans cette émission l'occasion de revenir avec une certification et une mise en service prévue en 2027. L'entreprise a déjà signé plus de 500 lettres d'intention d'achat par des clients basés un petit peu partout dans le monde. De plus, les technologies hybrides et électriques développées, elles sont exportables pour d'autres avions qui voudraient se décarboner. Les États de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale se sont en effet engagés il y a 2 ans pour une neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone en 2050 au niveau de l'aviation, il y a du travail à faire. Avec des avions qui ont une durée de vie de 20 à 30 ans, il va falloir remplacer l'ancienne génération entre 2030 et 2040 pour respecter ce timing. Oui, on verra, on en reparlera. D'où l'importance, justement, que les avions de plus petite taille soient sur le marché au plus vite, car ils vont apporter tout un terreau de technologie et de retour d'expérience qui va servir aux plus gros avions qui vont se décarboner dès 2035. C'est ce qu'explique donc le responsable cofondateur de cette entreprise, Jean-Christophe Lambert. Mais voilà, l'hybride électrique pour faire décoller la décarbonation de l'aéronautique. Le domaine de l'aéronautique est vraiment à un point crucial de son développement. Parce que si on veut un avion bas carbone, voire un avion zéro carbone, il va falloir bien sûr identifier les innovations et les technologies totalement appropriées pour répondre à cette problématique, bien sûr. Allez, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et on continue aussi à écouter un peu de musique, parce que c'est ça, Graphite.
In a tent, old Uncle Louis just couldn't pay rent. At the fish canning factory, he worked for his pay. With six starving children, he struggled each day. Poor Uncle Louis, his wife in the grave. Old Uncle Louis dug a tomb with a spade. For a handful of coins in despair one night, he sold his young daughter to man of the night.
Uncle Louis, C'était Chapel Hill sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parlait tout à l'heure de ce dispositif permettant de dessaler l'eau de mer pour avoir de l'eau potable. Je ne suis pas revenu sur cette annonce, sur cette enquête menée par Le Monde et Radio France et qui était sortie fin janvier concernant les eaux en bouteille en France. Cristaline, Vittel, Perrier, Contrex, toutes ces marques d'eau en bouteille sont bien sûr depuis longtemps des références pour de nombreux Français. Eh bien, Le Monde et Radio France ont révélé des pratiques frauduleuses au sein de toutes les usines productrices d'eau en bouteille détenues par Nestlé et au sein du groupe Alma. Donc ça concerne Vittel, Perrier, San Pellegrino, Épar, Cristal, Saint-Thior et ainsi de suite. En l'occurrence, l'usage de traitement des eaux non conformes avec notamment l'injection de sulfate de fer, de dioxyde de carbone industriel, l'exposition à des UV et des pratiques de microfiltration en deçà des seuils autorisés par la loi. C'est un véritable scandale. Des pratiques que les entreprises justifient par la nécessité de maintenir la sécurité de leurs eaux en bouteille, dont les sources ne sont pas épargnées par le réchauffement climatique et qui sont régulièrement polluées. Polluées, oui, mais voilà, à force de traitement, les eaux en bouteille ne se distinguent plus vraiment de l'eau du robinet, si ce n'est pas le prix, bien sûr. Et donc, après un mea culpa orchestré par Nestlé suite à une enquête sur les pratiques du groupe Alma, il y a une réunion interministérielle qui avait été organisée il y a un an, à l'issue de laquelle Nestlé aurait obtenu la possibilité de poursuivre certaines de ses pratiques non conformes, enfin qu'on nous explique un petit peu pourquoi, de quoi susciter bien sûr des inquiétudes quant à la transparence et à la réglementation gouvernementale. Alors l'enquête administrative qui a suivi a révélé que près de 30% des marques d'eau en bouteille, dont toutes celles de Nestlé, utilisaient des traitements non conforme, un chiffre probablement très sous-estimé, c'est ce qu'alertent les auteurs de ce rapport, compte tenu des nombreuses dissimulations délibérées et des manipulations pour tromper les contrôles sanitaires. Bien que Nestlé ait depuis affirmé avoir suspendu divers puits et retiré certains traitements, eh bien les questions subsistent quant à la sécurité sanitaire actuelle des eaux minérales. Pardon, l'inspection générale des affaires sociales a averti que le retrait des traitements non conformes pourrait engendrer des risques pour les consommateurs. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes, mais des divergences dans les actions des agences régionales de santé et des procureurs soulèvent des préoccupations quant à la manière dont l'affaire sera traitée par le gouvernement. Mais voilà, on suivra bien sûr tout ça parce que c'est à la fois scandaleux, bien évidemment, mais ce sera intéressant de développer aussi un petit peu toutes ces technologies qui sont utilisées et voir en quoi on a réussi à faire des choses qui n'étaient pas nécessairement bien clean dans ce domaine-là. On ne sait plus ce qu'il faut boire, en fait. Enfin, ça devient hyper compliqué, malheureusement. Et puis, comme je suis dans une phase totalement pessimiste, on va tout de suite commencer à parler d'une guerre nucléaire. Comme ça, ça sera fait. S'il y a une guerre nucléaire, eh bien, ça plongerait la Terre dans un hiver très long, très très long, que les scientifiques qualifient d'hiver nucléaire. En cause, bien sûr, les millions de tonnes de suie rejetées dans l'atmosphère par l'explosion des bombes, des suies qui cacheraient la lumière du soleil. Des calculs suggèrent qu'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie ferait baisser la température moyenne de notre planète de pas moins de 9 degrés Celsius. Bon, face au réchauffement climatique, certains se disent que ça serait une bonne idée. Que nenni, parce que la conséquence de tout ça, c'est une quasi-disparition des possibilités de production agricole. Et ceux d'entre nous qui auraient survécu aux bombes vivraient aussi, vivraient une famine vraisemblablement mortelle. Alors, il y a une équipe internationale qui vient peut-être de trouver la parade à cette famine. Dans la revue Earth Future, les chercheurs révèlent que les algues cultivées dans les fermes pourrait servir non seulement de ressources en termes de nourriture à l'humanité et aux animaux, bien sûr, mais aussi en termes de carburant, parce que les algues apparaissent comme suffisamment résilientes pour survivre dans les eaux tropicales, même après une guerre nucléaire. Les chercheurs se sont concentrés notamment sur une algue spécifique qui est Gracilaria tigvayae. Et selon eux, cette algue n'a besoin que de peu de photons pour réaliser la photosynthèse, donc très peu de lumière. Or, même en cas de guerre nucléaire majeure, eh bien, ils estiment que les tropiques recevraient encore à midi jusqu'à 20 fois plus de photons que nécessaire. Donc du coup, si l'algue se trouve là-bas, elle pourrait continuer à faire la photosynthèse. Selon les chercheurs, les algues pourraient suffire à nourrir plus d'un milliard d'êtres humains après seulement 9 mois de production intensifiée. Petit bémol tout de même, leur forte teneur en iode qui limite la part d'algues que nous pouvons inclure à notre alimentation à environ 15%. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir manger que ça. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais enfin, déjà, ça peut aller jusqu'à 15% de nos besoins. Mais les algues, elles sont donc aussi riches en protéines, en minéraux, en vitamines, en acides aminés essentiels et en acides gras, et si elles absorberaient bien des contaminants au-delà de guerre nucléaire, il apparaît que de simples traitements suffiraient à réduire la teneur de ces contaminants. De quoi imaginer que les algues puissent participer dès à présent à la sécurité alimentaire mondiale. Mon Dieu, non, elle a quand même... Elles arrivent à prendre la tête du pays, la tête du monde, en fait, les algues. Il y a d'autres travaux qui montrent qu'une guerre nucléaire aurait des effets dévastateurs sur nos océans aussi, jusqu'à remettre en question les conclusions de ces travaux. Le mieux, évidemment, bien sûr, c'est d'éviter d'arriver à cette extrémité. Mais en tout cas, voilà, l'algue, en tout cas, cette algue, Gracilaria tagviae, eh bien, serait presque notre seule chance de survie en cas d'apocalypse nucléaire. Écoute, on va pas vérifier, on va pas aller jusqu'à cette extrémité-là, mais voilà, on essaye de voir un petit peu quels seraient les organismes qui permettraient justement d'en savoir un petit peu plus et de nous aider à poursuivre cette vie sur Terre, si c'était encore possible. Alors, on va retourner un petit peu dans l'histoire, parce qu'on en a parlé d'avenir, on va regarder un petit peu le passé, et notamment il y a une trentaine d'années, c'était en 1991. Vous vous en souvenez peut-être, il y avait des alpinistes qui découvraient par hasard le corps momifié par le froid d'un homme qui était mort il y a plus de 5200 ans dans les Alpes. Cette dépouille, on l'avait surnommée Ötzi, et elle devient rapidement célèbre en raison de son parfait état de conservation, mais surtout des incroyables circonstances de sa mort. Les nombreuses études vont en effet conclure que cet homme, âgé environ de 45 ans, n'est pas mort naturellement, mais qu'il a été assassiné d'une flèche dans le dos. Ça, c'était Ötzi. Et les blessures retrouvées sur son corps ont en effet permis de reconstruire avec une précision surprenante le déroulement des faits, que l'on considère aujourd'hui comme le premier meurtre documenté de l'histoire humaine. Mais avec ces précieuses informations, on a aussi fait une analyse biologique d'Ötzi. Et tout cela a révélé de très nombreux détails sur sa santé et son environnement, ce qui a permis aux scientifiques de dresser un tableau inédit des conditions de vie en Europe à la fin du néolithique. Et parmi toutes ces révélations, on découvre qu'Ötzi était loin d'être en parfaite santé au moment de sa mort. Il souffrait d'arthrose, de calculs biliaires, il n'était pas gâté, il avait les poumons encrassés. Il était également porteur de la maladie de Lyme et de diverses bactéries pathogènes et de parasites intestinaux. Wow, le pauvre. C'est pas fini, parce qu'il y a une nouvelle étude qui révèle la présence dans ses intestins d'un champignon appelé Pseudogymnaocus destructans. Alors déjà, un champignon qui se termine par destructans, c'est pas bon signe. C'est un champignon que l'on connaît bien aujourd'hui, puisqu'il est responsable d'une maladie mortelle qui touche largement les colonies de chauves-souris en Amérique du Nord. Et donc, la santé d'Ötzi aurait-elle été pire encore que ce que l'on pensait jusqu'à présent? Eh bien, peut-être pas, car ce champignon qui ne se développe pas à des températures supérieures à 20 degrés, donc c'était finalement pour lui plutôt bénéfique, le corps humain est bien trop chaud, et pour les chercheurs qui sont l'auteur d'une étude qui a été publiée sur le site BioRxiv, eh bien il semble vraisemblable qu'Ötzi ait consommé accidentellement ces champignons pathogènes et qu'il ne se soit développé dans ses intestins qu'après sa mort, profitant des froides températures de l'environnement des Alpes. Tout au plus, ce champignon aurait pu causer à Ozzy des problèmes de peau ou des problèmes respiratoires. On serait presque soulagé pour lui, parce que vu ce qu'il avait comme difficulté, ce pauvre homme. Mais voilà, il est... Comment dire, on estime qu'il est mort il y a plus de 5200 ans. Et on va presque tout connaître de sa vie. C'est fascinant, c'est fascinant. Mais c'est la science. On écoute Sophie Unger sur l'antenne de Graphite et on continue à tourner les pages de cette revue de presse de l'actualité scientifique.
Let them measure out the room, the dimension, the effect. Let them formulate the state of each and every bit. Let them price and calculate what and what is not. Let them choose and demonstrate what they have and haven't got. And I'll say, oh, oh, I don't know. Oh, oh, I don't know. If I could open up my chest, pour out of myself, and in a corner I should rest. Rain on a shell that I'd be soaked up by roots of mountaintops to finally be spoken out of the light that someone drops and say, oh, oh, I cannot. Oh, oh, I can't. Barbie, if only you
Teenage Spirit Norm, c'était Sophie Unger sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion tous les mardis matins à 10h. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite depuis quelques années, bien sûr. Et on ne s'ennuie pas au niveau de l'actualité scientifique, parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui sont communiquées, et je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, des fois, on a des sujets un petit peu lourds, parfois des sujets un peu cocasses, et puis parfois, on a des informations qui nous font ni chaud ni froid, mais qui est toujours intéressant de connaître planètes. Par exemple, au niveau des anneaux de Saturne, de la planète Saturne, hein, le premier à les avoir observés, c'est Galilée. Nous sommes dans au tout début, je vais y arriver, du XVIIe siècle. C'est majestueux, hein, les anneaux de Saturne. On a tous vu des images de Saturne et de ses anneaux. C'est tout à fait mystérieux à cette époque. Et depuis, les astronomes ont proposé différents scénarios pour leur formation à partir de comètes, d'astéroïdes ou encore de satellites qui se sont aventurés au mauvais endroit et qui auraient été déchirés par l'extraction de la gravité de Saturne ou alors qui seraient rentrés en collision les uns avec les autres. Ils pourraient d'ailleurs ne s'être formés qu'assez récemment, c'est-à-dire environ 400 millions d'années. Oui, au niveau de l'astronomie, la notion de temps et de distance est légèrement différente à notre échelle, à nous. Bien sûr. En tout cas, les anneaux de Saturne, ils s'étendent aujourd'hui sur une distance comprise entre 70 000 et 140 000 kilomètres. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on arrive à bien les distinguer. Mais les chercheurs nous préviennent que nous devons nous attendre à les voir disparaître. Alors on se dit, oui, ok, ça va disparaître dans des millions d'années, puisqu'on, comme on est dans des échelles de temps assez longues dans ce domaine-là, est-ce que ça serait une désintégration progressive en une pluie de morceaux de glace qui tomberait dans l'atmosphère de la planète gazeuse, parce que Saturne est une planète gazeuse? Eh bien, rien de tout ça, ça va se faire rapidement, très rapidement, dans précisément 18 mois, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2025, les anneaux de Saturne vont disparaître en 2025. En fait, c'est l'inclinaison de cette planète géante sur son orbite autour de notre Soleil qui s'apprête en effet à changer et faisant s'aligner parfaitement ces anneaux avec notre propre champ de vision. Et les anneaux de Saturne, ils sont très larges, mais ils sont très minces et proportionnellement plus minces qu'une feuille de papier. Ainsi, essayer de les repérer reviendra à vouloir voir une feuille de papier au niveau de la tranche au bout d'un terrain de foot. C'est-à-dire que si vous voulez voir les anneaux de Saturne, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si vous voulez voir les anneaux de Saturne, et si on veut faire une comparaison, c'est comme si vous vouliez voir une feuille de papier sur la tranche qui est posée à l'autre bout du terrain de foot ou sur lequel vous êtes. Ça donne une idée un petit peu de la performance qu'il va falloir obtenir pour essayer de distinguer les anneaux de Saturne qui seront cette fois un petit peu sur la tranche par rapport à notre champ de vision. Alors c'est très exactement, nous dit-on, le 23 mars 2025, donc notez ça dans votre agenda. Ce jour-là, l'angle d'inclinaison de Saturne tombera à zéro. En fait, ça se produit environ tous les 15 ans, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais il se peut que la configuration se représente alors à plusieurs reprises de façon rapprochée. On parlera de 2038, et puis d'un seul coup, en 2039, ça sera deux fois de suite. En attendant, Saturne et ses anneaux vont se montrer sous leur plus grande inclinaison en 2032. On aura des images magnifiques de Saturne en 2032, mais alors l'année prochaine ça sera vraiment ridicule parce que Saturne sans ses anneaux ça n'a aucun intérêt quelque part, je pense, il me semble. Mais donc voilà, c'est Saturne qui se déshabille presque l'année prochaine. Tiens, on va parler un petit peu des animaux. J'aime bien des fois ces petites ces petits articles que l'on trouve un petit peu partout dans Science et Découvertes, dans Science et Avenir, dans Futura Science, et notamment au niveau des animaux, parce que c'est assez... Je sais pas, ça, c'est toujours sympathique de parler des animaux, avec notamment de ces questions qui est comment l'écureuil sait où il a caché ses noisettes. Alors quand vous avez un titre comme ça, fatalement vous cliquez et vous avez un article assez intéressant qui nous explique que cet écureuil fait donc bien sûr ses provisions et c'est bien sûr un petit peu le cliché de l'animal précautionneux, bien sûr. Y a même une banque qui en a fait sa mascotte, donc on voit bien que l'écureuil, ok, il a ses noisettes, il a ses provisions et il doit faire attention. Alors, contrairement aux marmottes et aux hérissons, l'écureuil n'hiberne pas. Il doit donc constituer des réserves de nourriture pour pouvoir manger tout l'hiver. Alors, il y a des graines, hein, des glands, des champignons, des escargots, des insectes. Et donc, bien sûr, les noisettes. Ce type de comportement chez les animaux se décline en deux stratégies. D'un côté, il y a ceux qui entassent toutes leurs réserves à un seul endroit. Et ceux, comme l'écureuil, qui les répartissent un peu partout. Disséminer ces provisions permet de minimiser le risque d'une perte importante. C'est ce qu'explique Miquel Maria Delgado, qui est chercheur à l'école vétérinaire de l'Université de Californie. Dans le cas où un petit concurrent viendrait à découvrir la cachette unique, eh bien, il ne resterait plus rien à l'écureuil. Donc l'écureuil, lui, il a dit « j'en mets un petit peu partout ». On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est un petit peu cette idée-là. Mais multiplier bien sûr les cachettes implique du coup de se rappeler d'un grand nombre de lieux. Un écureuil peut ainsi accumuler jusqu'à 3000 noisettes en une saison. Or, il est capable de se rappeler non seulement de l'emplacement de chaque cachette, mais aussi de la date à laquelle il a enterré ses noisettes et du type de nourriture qu'elle contient. Alors, est-ce qu'il aurait développé une mémoire hors norme ? On a longtemps pensé qu'il se fiait uniquement à son odorat, qui est excellent pour dénicher ses réserves. L'animal serait en réalité particulièrement doué pour localiser ses cachettes, allant même jusqu'à emprunter des chemins différents pour y parvenir. Il y avait une revue, il y avait un article, une expérience qui avait été mené et qui avait montré justement que pour localiser ses cachettes, il pouvait emprunter différents chemins pour y parvenir, mais il savait où c'était. Dans une expérience qui a été menée il y a quelques années, Miquel Maria Delgado, donc ce chercheur à l'école vétérinaire de l'Université de Californie, montre ainsi que l'écureuil adopte une stratégie appelée chunking, qu'on pourrait traduire par mémorisation par bloc. C'est un petit peu cette idée-là. Et c'est une stratégie qui lui permet de regrouper ou de fractionner ses noisettes selon des critères précis. Il entasse d'abord sa nourriture à un seul endroit, puis il la répartit dans différentes cages selon le type de noisette, permettant ainsi de construire une carte mentale. Et selon une autre étude qui avait été menée, les noisettes de valeur importante sont cachées de préférence éloignées de la source de nourriture afin qu'elles ne soient pas chippées par un autre écureuil. Il y avait un chercheur de l'université de Hokkaido au Japon qui s'appelle Pizakai Yushu qui explique que l'écureuil utilise aussi des repères visuels, notamment la distance par rapport aux arbres et entre les cachettes également. Il est même capable de tromper ses congénères en faisant semblant de fouiller dans les feuilles pour faire croire à une cachette. Mais qu'est-ce qu'il est malin, l'écureuil, mon Dieu ! Alors même avec ses stratégies quand même assez perfectionnées, l'écureuil ne retrouve jamais l'intégralité de ses cachettes, nous dit-on. Et en oubliant ses provisions, eh bien, il favorise ainsi, de façon involontaire bien sûr, la dissémination des graines dans la forêt. Mais voilà, il est malin, l'écureuil, il répartit un petit peu tout partout, il s'en souvient. Ou presque, bien évidemment. Alors, on écoute un tout dernier titre avant de nous dire au revoir sur l'antenne de Graphite.
Here on the endless road, there's a bird who sings an endless song for my endless trip around your world. Here on the endless road, there's a bird who sings an endless song for my endless trip around the world. Sometimes I'm afraid of going to sleep as I feel. I could not wake up someday. Sometimes just feeling like a freak, 'cause you're still on my mind and all I can say. Is here on the endless road, there's a bird who sings an endless song for my endless trip around your world. Here on the endless road, there's a bird who sings an endless song for my endless trip around your world. You'll feel the taste of quietness as you leave, walking alone, build yourself on pictures of the past that you'll be finding alone. Here on the endless road, there's a bird who sings an endless song for my endless trip around your world. Here on the endless road, there's a bird who sings an endless song for my endless trip around your world.
Endless, c'était Alain Corbel sur l'antenne de Graphite. Avant de nous quitter, une dernière information. C'est durant des opérations de dragage dans le port de Wlock. Oh là, c'est en Pologne, hein. Wlocławek, hein. Je pense que je prononce très mal. En tout cas, ça se passe en Pologne. Et donc, pendant ces opérations de dragage dans le port, les travailleurs ont remonté des profondeurs de la Vistule, hein, le fleuve. Un objet pour le moins inhabituel, c'est une épée abîmée par des siècles de corrosion qui dormait au fond du fleuve. Une fois cette épée remise aux autorités, eh bien, le Bureau de protection des monuments de la ville de Torun publie en janvier un communiqué pour détailler les premières informations. Alors cette arme, cette épée, la lame mesure près de 60 cm, elle daterait du haut Moyen-Âge et elle serait possiblement d'origine viking ou scandinave d'après une mystérieuse inscription gravée sur l'un de ses flancs. En analysant la forme de la lame et la poignée de l'épée, les chercheurs ont établi que l'arme porte les caractéristiques d'une fabrication scandinave ou germanique. Si ce n'est pas entièrement avéré, eh bien l'épée pourrait notamment avoir été manufacturée en Franconie, c'est-à-dire la région centrale de l'actuelle Allemagne. Elle aurait ensuite transité jusqu'en Pologne où elle aurait été perdue. Les datations réalisées sur l'épée découverte, eh bien les datations la font remonter au Xe siècle. À cette époque, les Vikings transitaient encore largement en Europe occidentale et ce type de marchandises pourrait avoir traversé plusieurs régions du continent par l'intermédiaire des peuples scandinaves. Il y a un autre indice hein, qui vient aussi alimenter les hypothèses, c'est l'inscription Ulfbert qui est découverte sur l'un des deux côtés de la lame grâce à un examen au rayon X. Alors des caractères similaires ont été observés sur près de 170 épées médiévales retrouvées en Europe, c'est ce que souligne le média américain CBS News. Les épées qu'on appelle donc Ulfbert ont été produites en Scandinavie entre l'an 800 et l'an 1000, donc c'est quand même assez ancien, en Pologne. Les recherches devraient continuer pour en apprendre plus concernant l'épée qui sera exposée au musée de Wlocławek au cours des prochaines semaines. Regardez sur internet, vous trouvez les images de cette intrigante épée perdue il y a 1000 ans et retrouvée au fond d'un fleuve en Pologne. Voilà, c'était la dernière information de cette émission Biotine. On se retrouve bien sûr samedi prochain pour continuer à parler de l'actualité scientifique dans tous les domaines. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, on a parlé pas mal de choses et je suis assez satisfait. Je vous souhaite, le mec qui s'offre lui-même des fleurs, il a bien raison. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve samedi prochain bien sûr sur l'antenne de Graphite et d'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Bonne journée à tous. À bientôt, au revoir.